Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Dominique Bricquel, bonjour et
bonjour.
Merci d'être de nouveau avec nous sur Canal Académie. Vous êtes, je le rappelle, correspondant à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, professeur à l'Université de Paris 4 et vous dirigez le Centre de recherche archéologique d'Orient et d'Occident. Dans une précédente émission, vous avez présenté le peuple étrusque, ce peuple important, cette première grande civilisation sur le sol de l'Italie. Aujourd'hui, vous nous parlez des savoirs étrusques et en particulier du savoir religieux des étrusques et leur transmission. Donc les étrusques savaient écrire, ils ont développé leur écriture, mais de quel type d'écriture s'agit-il ? Et puis les étrusques avaient une grande conscience de la religion, mais de quel type de religion est-ce ? On a tous souvenir dans nos versions latines du mot aruspis. Qu'est-ce que les aruspis ? Quelles étaient leurs démarches et peut-être aussi quelle fut leur postérité ou la postérité qu'ils auraient bien aimé avoir.
Alors au fond, vous me posez deux questions et je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire le béaba, c'est le cas de le dire, puisque vous m'avez posé la question de l'écriture. Effectivement, le savoir, du moins dans une civilisation comme celle des Étrusques, passe par l'écrit et effectivement, au fond, le commencement du savoir pour les Étrusques comme pour nous-mêmes, ça consistait à apprendre à lire et à écrire, ça consistait à apprendre les lettres. Alors, il faut peut-être rappeler un certain nombre de points, qui est que on parle souvent du déchiffrement de la langue étrusque. En fait, le terme de déchiffrement n'est pas très heureux, parce que déchiffrer, au fond, ça signifie qu'on arrive simplement à lire. La lecture, proprement dite, d'un texte étrusque ne pose strictement aucun problème, puisque l'écriture étrusque, en fait, ressemble tout à fait à la nôtre.
Elle vient du grec.
Oui, alors elle vient du grec. Et si on prend un peu la chaîne de transmission des écritures, elle vient du grec, et c'est eux qui, à leur tour, ont appris à écrire en latin. Autrement dit, notre écriture latine, celle que nous servons aujourd'hui, bon, vient immédiatement du grec, mais vient immédiatement de l'écriture étrusque, puis c'est elle qui a servi de chaînon intermédiaire entre les deux. D'ailleurs, on peut peut-être signaler qu'il y a un point tout à fait net qui prouve que les Étrusques ont joué un rôle dans notre écriture, si je peux dire, dans la mesure où si on prend le début de l'alphabet grec, vous avez alpha, bêta, gamma, delta. Donc si je prends les valeurs phonétiques, ce serait A, B, K, D. Or, pour le grec, le gamma, c'est ce qui pour nous serait le gué. Bon, si je prends des termes phonétiques un peu compliqués, on pourrait dire que c'est une occlusive sonore. Alors que pour nous, c'est devenu le ké, qui est une occlusive, mais une occlusive sourde. Alors là, il faudrait faire intervenir des questions phonétiques assez complexes, mais cela vient de ce que les Étrusques ont adopté un alphabet grec, ont adopté, mais l'ont aussi adapté, l'ont adapté à leur propre langue, et justement, ils n'avaient pas le fameux son gué. Ce qui fait d'ailleurs que dans notre écriture, on a le gué, mais on l'a ailleurs et ça n'est pas directement l'héritage
du gamma. Parce que leur gué, c'est notre C et notre gué n'est pas là.
Non, notre gué, c'est autre chose. Oui, ça a remplacé une autre lettre grecque que les Étrusques avaient gardée, qui était le zeta et qui n'avait pas d'utilité pour les latins. Donc, ils ont recréé un gué qu'ils ont mis à cet endroit-là. Et ça, ça prouve clairement que notre écriture vient des Étrusques. D'ailleurs, ça se comprend. Parce que quand Rome a commencé à se développer, ben, la grande civilisation, ceux qui étaient avancés matériellement, politiquement et aussi culturellement, c'était bien sûr les Étrusques. Et on a des inscriptions étrusques qui datent de l'extrême fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc sensiblement avant, une génération avant, la première inscription latine étant la fameuse Fibule de Préneste, une inscription sur une fibule en or trouvée dans une tombe de Préneste qui date au plus tôt de 650 avant Jésus-Christ.
Parce qu'on a trouvé des exemples d'abécédaires dans les tombes.
Oui, alors justement, c'est quelque chose d'assez typique des Étrusques et pour nous-mêmes, dans un sens, assez surprenant. Parce qu'on a trouvé des abécédaires, on a même trouvé un nombre relativement important d'abécédaires. Abécédaire, ça veut dire quoi ? C'est simplement un objet sur lequel est inscrit l'alphabet. Donc, on connaît très bien l'alphabet étrusque parce qu'on possède ces abécédaires. On en a donc qui remontent au tout début de l'écriture étrusque, vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. On en a encore pour le 6e siècle avant Jésus-Christ. Or, ces abécédaires sont déjà inscrits souvent sur des objets extrêmement précieux. Par exemple, on en a sur une tablette à écrire. Une tablette à écrire, c'est quelque chose d'assez banal à cette époque, comme le feront les Romains après. Bon, on écrivait sur des tablettes enduites de cire, on gravait ce qu'on voulait écrire avec un stylet, et ensuite on pouvait l'effacer pour s'en servir. Mais cette tablette à écrire portant un abécédaire, on l'a trouvée dans une tombe d'une ville étrusque qui s'appelle Marsiliana d'Almagna, donc du milieu du VIIe siècle, et c'est un objet en ivoire, donc un objet extrêmement précieux. Pour prendre un autre exemple d'abécédaire, il y a aussi un exemple assez joli et assez amusant pour ceux qui ont été au Metropolitan Museum à New York. Il y a un petit coq dans cette céramique de prix des Étrusques qu'on appelait le bouquero, un petit coq en bouquero qui porte sur son flanc un abécédaire. Là aussi, c'est un vase de valeur et on avait écrit l'alphabet là-dessus.
Donc, sur les bouqueros de céramique, ils décoraient les vases avec des abécédaires.
Alors, bon, il y avait d'autres décors, bien sûr, mais on pouvait avoir...
C'était déjà un petit peu étonnant que cette discipline intellectuelle et précise soit un élément de décoration.
On pouvait l'utiliser comme élément de décoration, on pouvait aussi le trouver sur des objets fonctionnels liés à l'écriture, comme cette tablette en ivoire, mais ce que je trouve assez frappant, c'est que c'est toujours sur des objets précieux, et même lorsqu'il s'agit des objets liés à la pratique de l'écriture, comme cette fameuse tablette en ivoire de Marsiliana d'Almenga, ça n'est pas l'objet dont on servait tous les jours, c'est l'ivoire. Or l'ivoire, c'est un objet d'importation qui arrivait par le commerce d'au-delà des mers, vraiment quelque chose qui avait un grand prix. Et plus généralement, ces abécédaires, où est-ce qu'on les trouve? Ben, on les trouve justement dans ces tombes somptueuses de l'aristocratie étrusque, et ça fait partie des objets importants, des objets par lesquels ces grands personnages, ceux qu'on appelle les princes étrusques, qui se faisaient ensevelir dans ces tombeaux, au fond, voulaient montrer leur personnalité, voulaient affirmer leur personnalité et bien sûr leur prestige social. Ce qui veut dire que on est dans une civilisation où, bien sûr, il y a peu de gens qui savent lire et écrire, mais le fait de savoir lire et écrire est quelque chose qui est ressenti comme faisant partie de ce prestige social. Et si on a le privilège de savoir lire et écrire, on apparaît comme quelqu'un d'extrêmement cultivé. Au fond, en latin, on employait literatus, en français, nous avons encore lettré, et ça, il faut le prendre au sens propre. Des gens, simplement, qui possèdent leurs lettres, qui savent le ABCD. Et si on prend une comparaison avec nos propres supports d'écriture, c'est un peu comme si des grands personnages, maintenant, arboraient sur leur tombe une ardoise d'écolier ou un cahier dans lequel ils ont fait leur apprentissage. D'autant plus que, quelquefois, ces abécédaires sont accompagnés d'exercices d'écriture. Du style babébibobu, kakekikogu, dadedidodu. Donc, c'est vos personnages. N'hésitez pas à montrer qu'ils avaient appris leur lettre. Et très clairement, c'est quelque chose qui soulignait leur rang dans le corps social.
Mais ces princes étrusques, quels étaient les supports? Bon, ça, c'était des éléments de décoration qu'on trouve dans les tombes. Oui. Mais dans la vie quotidienne, les supports, les stylets, la céramique, j'imagine, qui leur étaient utiles.
Alors là, je dois dire, pour la question des supports d'écriture, c'est un gros problème, parce que dans les conditions climatiques de l'Italie, ou plus généralement de l'Europe tempérée, les supports d'écriture qui étaient habituellement utilisés pour noter ce qu'on voulait écrire étaient sur des matériaux périssables, donc des choses qui ont disparu. Ils utilisaient quoi? Ils utilisaient ces tablettes à écrire auxquelles j'ai fait allusion, mais bien sûr, Marsiliana d'Almenga, c'était un exemplaire en ivoire, mais normalement c'était en bois, donc le bois disparaît. Qu'est-ce qu'on avait comme autre support d'écriture? On avait, ou on aura, parce que c'est un peu plus récent en Italie, l'utilisation éventuellement du papyrus importé d'Égypte à l'époque hellénistique, ou du parchemin, mais là aussi, ça n'est pas des choses qui subsistent. Alors, il y avait un support d'écriture assez particulier chez les Étrusques, et plus généralement en Italie. Et si j'en parle justement, c'est parce qu'il y a l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire, on sait bien par les textes latins que les Latins, mais plus généralement les habitants de l'Italie ancienne, avant justement de pouvoir importer du papyrus d'Égypte ou bien du parchemin, je rappelle que le nom du parchemin vient du nom de Pergame, donc là encore on est à l'époque hellénistique, époque relativement tardive par rapport au début de la civilisation étrusque, ils utilisaient ce qu'ils appelaient des livres de lin, liber linteus au singulier, libri lintei au pluriel. C'était simplement des toiles de tissu sur lesquelles on écrivait quelque chose à l'encre. Bien sûr, là aussi, le tissu n'avait aucune chance de subsister en Italie, mais quand je parlais d'exception, il y a l'exception qui confirme la règle, une histoire assez étonnante d'un livre de lin, donc de ces antiques supports d'écriture sur lesquels il y avait un texte étrusque, et qui a été se promener en Égypte, sans doute amené par un aruspice de ces aruspices dont nous parlerons tout à l'heure, et comme il n'avait plus d'utilité en tant que tel, les Égyptiens qui l'avaient entre leurs mains l'ont découpé en bandelettes à partir de laquelle ils ont enveloppé une momie qui se trouve actuellement au musée de Zagreb en Croatie, et c'est à ce concours de circonstances tout à fait exceptionnel, un livre de lin qui s'est trouvé dans des conditions tout à fait particulières en Égypte et qui est revenu enveloppant une momie, qui fait que là, on a un de ces témoignages directs des supports d'écriture qui étaient utilisés. Témoignage assez tardif, le texte doit être du début du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais c'est vraiment un texte russe, c'est d'ailleurs le plus long que nous possédions, avec à peu près 1200 mots conservés.
Qu'est-ce qui était contenu dans les livres ?
Alors, les livres, bien sûr, il y avait de tout, mais au fond, quand on parlait de livres étrusques, libri étrusqui dans l'Antiquité, souvent c'était des livres à contenu religieux. Et c'est le cas d'ailleurs de ce fameux livre de lin qui s'est trouvé en Égypte et qui actuellement est exposé au musée de Zagreb, dans la mesure où il semble que ce soit, dans la mesure où on le comprend, un calendrier religieux qui indique jour par jour les fêtes qu'on doit célébrer, les offrandes qu'on doit faire à tel ou tel lieu.
Mais c'est un très grand renseignement parce que ça donne des renseignements sur la société et la civilisation précise,
oui. Ah oui,
et spirituelle.
C'est un document direct assez exceptionnel parce qu'au fond, il faut avoir conscience de ce que ce genre de rituel, nous sommes à une époque encore relativement ancienne, si je compare à ce qu'on trouve pour Rome, au fond, on n'a pas l'équivalent en latin pour les rituels romains. Alors, bien sûr, on sort, s'agissant de l'étrusque, au problème habituel qui est que, bon, on arrive à comprendre la structure générale. Quand j'ai dit qu'il s'agissait d'un calendrier, on voit très bien qu'il y a des rubriques qui distinguent des jours et des mois. Autrement dit, il y a des formules de datation, tel jour de tel mois, on doit faire quelque chose. On a des noms de dieux, là aussi on les comprend parfaitement. Dieu Neptune qui s'appelle Netoun, en fait c'est le même nom que le Neptune latin. Donc on comprend à peu près que c'est des cérémonies qui doivent être faites en différentes occurrences, tel ou tel jour de l'année. Alors dans le détail, bien sûr, beaucoup de choses nous échappent. Certains passages, on n'a pas tellement d'hypothèses à proposer, mais au moins qu'il s'agisse d'un calendrier rituel, cela semble parfaitement clair.
Parlons de religion maintenant, parlons des aruspices, parce que nous y arrivons. On a souvenir de ces hommes qui regardaient le foie des oiseaux ou le foie des mammifères, mais ce n'est pas que ça. Je vous attends pour avoir des détails, parce que je crois que c'était des personnages qui avaient une véritable valeur intellectuelle.
Alors en ce qui concerne le foie, effectivement, regarder des foies d'oiseaux, ça ne va pas très simple, donc c'était plutôt des foies de mammifères et, semble-t-il, surtout des foies de moutons. Et on le sait bien en particulier, parce que là aussi, il y a une trouvaille assez intéressante. Alors là, ça n'était pas en Égypte, mais c'était en Italie du Nord, dans la région de Plaisance, où, vers la fin du 19e siècle, dans un champ, on a découvert une sorte de foie pour aruspice, mais de foie modèle, de foie qui était en bronze, donc qui a pu, bien sûr, subsister.
Un foie d'école.
Oui, un foie d'école. Et un foie d'école qui présente l'intérêt de reproduire parfaitement l'organe de l'animal, et on a pu dire justement que c'était un foie de mouton, mais qui superpose à l'animal une division en cases, bon, relativement compliquée, mais dans ce dessin de cases, à chaque fois est inscrit le nom d'une divinité. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Neptune, Neptune, vous avez Tyn qui est le Jupiter étrusque. Donc, des noms de dieux qu'on connaît souvent par ailleurs et qui souvent sont faciles à comprendre. Ce qui veut dire que chacune des divinités avait, si on peut dire, sous sa juridiction, une parcelle du foie. En pratique, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que lorsque un aruspice observait le foie de l'animal sacrifié, bon, il projetait ce cadre mental sur l'organe, et s'il notait à tel ou tel endroit du foie une particularité quelconque, une déformation, une couleur étrange, une protubérance, tout ce qu'on veut, ben, il savait que c'était tel lieu qui était intéressé. Autrement dit, il fallait sans doute lui faire des offrandes, lui adresser des prières, ainsi de suite, dans la mesure où, très souvent, ça risquait de ne pas présager grand-chose de favorable.
Mais alors ces aruspices, quelle formation avait-il et quelle place tenait-il? Parce qu'on sait bien que le monde religieux tient une place énorme dans les sociétés de toujours, mais surtout de cette époque-là. Était-il délettré? Avait-il une force politique, économique? Quels étaient-ils?
Alors, bien sûr, il y a beaucoup de points, là encore, qu'on ne sait pas, mais on a quand même certains éléments, d'autant plus que les Romains s'étaient beaucoup intéressés aux aruspices. Ils ne s'étaient pas toujours intéressés en bien, et Cicéron rapportait une formule de Caton, Caton le censeur, début du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui méprisait tellement les aruspices et trouvait que ce qu'il racontait était complètement farfelu, qu'il disait d'eux que jamais un aruspice ne pouvait voir un autre aruspice sans rire. Alors, discrédit des aruspices, mais qu'il faut tout à fait relativiser. Déjà, c'est des Romains qui parlent, donc il y a toujours un certain mépris à l'égard des autres. Et au fond, ça n'est que la contrepartie négative du succès de l'aruspicine. Parce que, et là encore, on peut se référer à Caton, parce que Caton, par exemple, met en garde, dans son traité d'agriculture, une sorte de conseil qu'il donne à l'intendant de sa villa, il met en garde contre les aruspices de village, c'est-à-dire l'équivalent de 10 heures de bonne aventure qui proposaient leur service contre rémunération. Mais ça n'est que l'écume du phénomène, ça n'est pas parce qu'il y avait ces aruspices de bas étage qui pullulaient que l'aruspicine en tant que telle se réduisait à cet usage tout à fait méprisé, socialement méprisable. Parce qu'au contraire, dans la bonne société étrusque, les aruspices étaient des gens tout à fait considérés. Les aruspices appartenaient aux plus hautes familles. Pour prendre un exemple qui est bien connu, César avait un aruspice attitré qui s'appelait Spurina, et d'ailleurs Spurina, le matin des Ides de Mars, l'avait mis en garde en disant que il fallait qu'il se méfie de cette journée. Évidemment, César n'en a pas tenu compte et on sait ce qu'il en est advenu. Or, Spurina, c'est une famille bien connue, c'est une des très grandes familles de l'aristocratie étrusque. Donc, c'est un exemple de ce que ces personnages, souvent, étaient de très haute noblesse. On a des tombes étrusques dans lesquelles les défunts sont présentés comme des aruspices. Ils ont un accoutrement tout à fait particulier, hein, une tenue spécifique, en particulier un chapeau pointu. Et ils tiennent souvent ces fameux livres dont je parlais, dans lesquels était consigné leur savoir. Donc, c'est des gens qui appartenaient aux hautes classes de la société. Pourquoi? Parce que, vous parliez de l'importance de la religion dans ce genre de société, il est bien évident qu'on n'est pas en présence d'États qui étaient des États laïcs. Au contraire, une des fonctions importantes de l'État, c'est d'assurer les bonnes relations de la cité avec ses dieux, et donc de faire que les dieux lui soient favorables. Pour cela, il faut entrer en communication avec les dieux, savoir ce qu'ils attendent de nous, et ceux qui peuvent le faire, d'après les Étrusques, c'est ces fameux aruspices qui, par leur technique, arrivaient au fond à déceler les desseins des divinités. Donc c'était des gens qui jouent un rôle vis-à-vis du pouvoir, qui étaient proches du pouvoir. Et ça continuera à Rome, parce que le Sénat romain avait créé un corps des aruspices, l'ordre des 60 aruspices, justement, pour répondre aux questions que pouvait se poser la Respublica romaine. Sous l'Empire, les empereurs auront encore des aruspices attitrés. Donc le besoin avait toujours persisté, et les Romains qui n'avaient pas l'équivalent dans leur tradition étaient bien contents d'avoir recours aux aruspices étrusques, à ce personnel spécialisé étrusque.
Oui, donc les Romains ont aussi pris le système des aruspices pour eux. Je pense aussi, parce qu'il y avait l'alphabet dont on vient de dire qu'il était passé par les Étrusques, et là aussi.
Oui, alors là, il faut bien voir au départ qu'il y a une sorte de manque de la religion romaine, ou du moins ce qui était ressenti comme un manque. Alors bien sûr, les Romains, dans leur fond religieux national, avaient des moyens de communiquer avec les dieux, ils avaient des corps dont on peut considérer qu'ils
c'était
jouaient
les
un rôle.
Augures.
Oui, il y avait les fameux augures qui étaient chargés de, au fond, déceler les réponses des divinités. Mais les augures, comment est-ce qu'ils procédaient? Il y avait ce qu'on appelle les prises d'auspice. Auspice, ça veut dire simplement « avis, oiseau, spicium, spicere », regardez, c'était l'observation des oiseaux. Mais finalement, c'était des réponses extrêmement simples, de l'ordre du oui ou du non, à des questions qui, forcément, étaient aussi simples. Ça consistait à demander au Dieu, est-ce que vous êtes d'accord avec telle ou telle décision que nous sommes prêts à prendre? On regardait dans quel sens volaient les oiseaux, de droite ou de gauche. Dans le détail, c'était très compliqué, parce que, bien sûr, on avait encore compliqué le système en disant que pour telle ou telle catégorie d'oiseaux, tel sens était favorable, et c'était l'inverse pour les autres, mais passons. Donc, il y avait cette possibilité de communication avec les dieux, mais qui, en pratique, ne pouvait intervenir que dans des occurrences assez limitées. Bon, par exemple, lorsqu'un général allait engager la bataille, ben, il procédait à une prise d'auspice. Même lorsqu'il y avait des élections, lorsqu'il, évidemment, pour intéresser certains de nos politiques actuels, on pouvait, même après les élections, dire, ah ben, les dieux sont défavorables, ça ne marche pas, donc il faut recommencer. Bon, ça permettait toutes les manipulations, peut-être, mais au moins le principe est clair, ça veut dire que l'homme propose, mais Dieu dispose, et qu'il fallait avoir l'accord des dieux. Alors, pour en venir aux Étrusques, ce que les Étrusques apportaient comme plus, c'est que, justement, ces vieilles techniques romaines étaient assez limitées. En particulier, il y avait tout un champ d'application de la ruspicine qui leur permettait de proposer une analyse alors de toutes sortes de phénomènes, ce qu'on appelle les prodiges, prodigia en latin, ou ce qu'on appelait aussi en latin monstra, qui a donné monstre, ou ostenta, c'est-à-dire toutes sortes de phénomènes sortant de l'ordinaire et qui, dans une mentalité qu'on peut qualifier de primitive, si on veut, veulent dire que le processus naturel a été modifié, était interrompu, était faussé par l'intervention du surnaturel, par l'intervention de la divinité. Alors ça peut être n'importe quoi. Il naît un mouton à cinq pattes, pour nous ce serait une curiosité, mais là, on se disait, oulala, les dieux veulent nous dire quelque chose. Ou s'il y avait eu une inondation du Tibre, s'il y avait une épidémie, un tremblement de terre, tout ce qu'on veut. Une étoile filante, une comète, la fameuse comète de César. Alors, on a des passages de Tite Live qui sont assez intéressants parce que, surtout en période de crise, on voit l'énumération des prodiges qui sont survenus. Et quelquefois, il y a des choses ahurissantes, des bœufs qui se mettent à parler, des enfants à deux têtes. Alors, par rapport à cela, la réaction, c'était les dieux veulent nous dire quelque chose, mais les techniques proprement romaines, les fameux augures, étaient incapables de dire quoi que ce soit. Alors que les Étrusques, les aruspices étrusques, avaient élaboré tout ce qu'ils considéraient comme une science religieuse qui était capable d'expliciter, du moins croyait-il, le sens de ces phénomènes.
Et les foudres, l'éclair, la couleur et la forme étaient aussi étudiés ?
Alors, effectivement, vous parlez des foudres, c'est un des grands signes qui était adressé par les dieux à l'homme. Au fond, c'est assez normal. La foudre vient du ciel, on en fait l'arme de Zeus, de Jupiter, de tous les dieux importants. Et c'est ce qui affirme très nettement la maîtrise du ciel sur la terre. Donc au fond, c'est banal de considérer que les foudres viennent de la divinité. Ce qui, dans le cas des Étrusques et de ces aruspices étrusques, était plus intéressant, c'est qu'ils avaient développé toute une doctrine, alors là encore, qui était consignée par écrit, il y avait parmi ces livres étrusques une catégorie qu'on appelait les fulguraux ou les livres fulguratoires, les livres des foudres, et où ces aruspices avaient analysé d'une manière tout à fait précise le phénomène. Vous faites allusion aux particularités de couleur, de forme, l'endroit du ciel d'où il vient, l'effet que produit la foudre en tombant sur le sol, etc.
C'était scientifique.
Oui, alors, dans un sens, oui, si on prend en compte la qualité d'observation du phénomène qui était mise en jeu. Parce qu'il y a vraiment, dans la description et l'analyse du phénomène, au fond, une précision et l'établissement de catégories qui seraient de l'ordre de ce qu'un scientifique aujourd'hui pourrait vouloir faire. Alors, scientifique, bien sûr, d'un autre point de vue, ça ne nous l'apparaît absolument pas. Parce
mais c'était une démarche scientifique.
Il y avait une démarche scientifique dont la finalité était religieuse, parce qu'il s'agissait toujours de déceler derrière ça ce que les dieux voulaient nous dire. Mais il y avait quand même une observation scientifique. Il y a un passage de Sénèque que je trouve assez intéressant, qui fait allusion, à propos des foudres justement, à la science étrusque, en disant que ces aruspices étrusques, au fond, analysaient le phénomène en tant que tel, dans sa description, de la même manière que le faisaient les représentants de la science de l'époque, les Grecs qui avaient travaillé sur le sujet, mais pour eux, ça n'était qu'un préalable. Ce qui comptait, c'était la volonté des dieux. Pourquoi est-ce qu'ils avaient produit ce phénomène? Alors là, bien sûr, à nos yeux, on passe sur un autre plan. Mais au moins, au point de départ, l'observation était quelque chose de tout à fait, disons, froid et objectif. Et l'analyse de la volonté des dieux, là on peut aussi faire intervenir des notions comme ce qu'on appelle divination inductive ou divination déductive. Il y a toutes sortes de civilisations, au fond, qui font passer les processus de divination par des figures de devins, qui sont des sortes d'êtres inspirés, qui se mettent à parler sous l'inspiration d'un dieu qui s'empare d'eux. Enfin,
chaman,
oui,
etc.
Ce genre de choses. Pour les êtres russes, c'était tout à fait autre chose. Il y avait une démarche, alors là encore on peut dire scientifique, du personnage qui observait le phénomène de l'extérieur, qui se reportait à tout un savoir qui était consigné par écrit dans ces fameux livres.
Dans un livre.
Oui.
Religion du livre.
Oui. Ah oui, alors là, bien sûr, religion du livre ou des livres, parce qu'il y avait plusieurs livres, mais effectivement, et c'est aussi un aspect tout à fait caractéristique et qui explique cette importance et ce succès de la religion étrusque, qui est que cette impression de sérieux était renforcée par le fait qu'il y avait des livres de référence, en quelque sorte, qui étaient une sorte de Bible à laquelle ils se référaient. D'ailleurs, si j'emploie le terme de Bible, c'est un peu à dessein. Dans la mesure où on voit que lorsque, sous l'Empire romain, le christianisme ou la religion juive, les deux en même temps, ont commencé à se répandre, certains romains ont une réaction assez négative en se disant « mais qu'est-ce qui vient de nous ennuyer ?»
On a les Étrusques.
C'est ça, nous avons les livres étrusques.
Donc, il y a eu opposition entre le christianisme et la religion étrusque.
Oui, alors, très visiblement. À un certain moment, disons, dans le climat de lutte contre le christianisme, dans l'histoire des persécutions, la religion étrusque a été amenée à jouer un certain rôle. J'avais fait allusion tout à l'heure au fait que les empereurs avaient à côté d'eux des aruspices. Et en particulier, dans ce qui nous est raconté par Lactance du déclenchement de la grande persécution, de la persécution de Dioclétien, qui était la dernière, mais qui était sans doute la plus sévère, ce qui a été l'étincelle qui a déclenché les choses, même si bien sûr, ce n'est pas la seule raison, c'est le fait que lors d'un sacrifice en présence de l'empereur, des aruspices ont estimé que le sacrifice avait été complètement faussé par la présence de chrétiens. Donc on voit très bien que les aruspices jouent un rôle contre les chrétiens.
Il y a une lutte de pouvoir.
Oui, une lutte de pouvoir. Disons, sans doute aussi, parce qu'ils estimaient qu'ils représentaient la religion traditionnelle et que le christianisme ou le judaïsme, ou plus généralement toutes les religions orientales, apportaient une perturbation et allaient détruire, au fond, les fondements religieux de la cité traditionnelle. Alors justement, dans leur cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils pouvaient au fond prétendre opposer un peu l'équivalent de ce que pouvaient offrir les juifs ou les chrétiens, mais en l'épuisant dans leur propre fonds, dans un fonds national qui était italien, qui concernait plus directement les Romains. Il y avait ces livres sacrés. Aussi un point assez important et qui est mis en avant à cette époque-là, ce qui prouve que ça entrait dans cette démarche de défense contre le christianisme, on racontait que l'origine de ces livres sacrés, il y avait eu des prophètes, des figures de prophètes qui, dans des temps très anciens, avaient révélé aux Étrusques les premiers principes de leur science religieuse, de ce qu'on appelait l'Etrusca Disciplina, la discipline étrusque. Alors, des histoires qui, pour nous, évidemment, sont assez légendaires. On racontait qu'il y avait un jeune enfant appelé Tagès qui avait surgi tout d'un coup, tout bébé, d'un sillon de la terre qu'un paysan étrusque était en train de labourer aux alentours de Tarquin. Alors, pour nous, c'est une légende, mais on racontait que cet enfant s'était mis aussitôt à prophétiser. si on peut dire, et a posé les principes de la religion étrusque, que tous les assistants étaient tellement béats d'admiration qu'ils avaient mis par écrit le contenu de ces révélations de cet enfant divin
Thalès. Inspiré, oui, un enfant
oui,
inspiré.
Oui, tout à fait, oui. Alors là aussi, on voit aussi comment ça pue par rapport au christianisme.
Oui, on pense
être,
à tout ça.
Être utilisé.
Et donc, la religion étrusque que les Romains utilisaient a disparu au moment où la religion chrétienne a été acceptée par l'édit de Milan, etc. Ça s'est passé comme ça ou ça s'est passé en douceur?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu d'abord cet édit qui est un édit de tolérance. L'État romain n'est pas devenu chrétien du jour au lendemain, mais les choses ont évolué quand même assez rapidement. Au fond, à l'époque de Théodose, là, on voit très bien qu'on a une interdiction des cultes païens publics, les temples ne sont plus ouverts aux cultes, donc en un siècle, disons, les choses se passent. Alors, en ce qui concerne les Étrusques, bien sûr, ils avaient partie liée avec la religion païenne, ils faisaient partie du paganisme et ils étaient condamnés à disparaître. Si bien que tous ces fameux livres, ils ont disparu. Alors, est-ce que les chrétiens les ont détruits volontairement ou est-ce qu'au fond, ils sont morts de leur belle mort parce que plus personne ne s'intéresse à ça, on ne peut plus très bien le savoir.
Et pour conclure, sur nos deux émissions qui nous ont montré l'ampleur de ce monde dans les domaines matériels et dans le domaine intellectuel et spirituel, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les Étrusques maintenant?
Alors, c'est une civilisation qui était très importante, mais qui en même temps est très lointaine, qui a joué un rôle dans les tout débuts de l'histoire de Rome et de la naissance de la culture romaine. Il y a encore des traces dont nous vivons aujourd'hui, même si nous n'en avons pas conscience. J'avais fait allusion à la question de l'écriture latine, qui en fait est une écriture qui est passée par les Étrusques. En même temps, justement, le cas de l'écriture me semble tout à fait significatif de cela. Au fond, cette écriture est venue au latin par les Étrusques, mais elle-même venait du grec. Donc, la civilisation étrusque s'est développée aussi parce qu'il y a eu des ferments venus de l'extérieur, en particulier ce que les Grecs, dans une certaine mesure aussi les Phéniciens, ont pu apporter en Italie. Mais au fond, c'est un cas qui me semble tout à fait emblématique de toutes les grandes civilisations. Une civilisation ne naît pas de rien, mais ce qu'elle apporte, c'est justement ce qu'elle a pu faire, en quoi elle a pu améliorer ce qu'elle a reçu. Les Étrusques avaient reçu, mais ils ont aussi développé à leur tour, par exemple, l'architecture des temples, les grands temples romains sur leur podium. C'est quelque chose qui vient de cette adaptation étrusque de l'art grec. Et je crois que par cette chaîne de transmission, ce passage d'une civilisation à l'autre, il y a quand même aussi cette part des Étrusques qui n'a pas été inexistante dans le passé et dont nous avons encore certaines survivances.
Alors, allons voir ce que l'on peut voir dans les tombes qui ne sont pas si loin.
Oui, oui.
Et qui sont faciles d'accès.
Oui, puis il y a vraiment, justement, alors, grâce à cet art étrusque, en particulier cet art pictural qui est tout à fait exceptionnel, il y a quand même cette proximité que permet seule l'imagerie, la vivacité des couleurs, puis il faut bien dire l'agrément de ces scènes.
Oui, joyeuse.
Oui, oui.
Très joyeuse. Eh bien, merci beaucoup Dominique Bricquel. J'espère que vous reviendrez nous renseigner aussi sur tout ce monde passionnant. Au revoir Dominique Bricquel, merci.
Avec très grand plaisir, merci.